Bienvenue au sommet virtuel Femmes Sauvages. Il est des civilisations anciennes où les femmes, puissantes dans leurs dons et leurs savoirs, incarnaient pleinement leur nature sauvage. Fortes de cette sagesse ancestrale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreuses à revenir sur ce chemin authentique et puissant. Cette part de nous, à la fois créative et guérisseuse, intense et cyclique, sensuelle et magnifique, attend son heure depuis bien longtemps. Ce sommet virtuel rassemble des femmes sauvages de tous horizons, de tous âges, de toutes cultures. Elles sont toutes très différentes et en même temps très très complémentaires. Et surtout, elles ont tout à cœur de vous transmettre leur sagesse, leur savoir, et de vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à vous-même. Parce qu'il est temps, femmes sauvages, de sortir un peu plus de nos tanières et d'offrir au monde ce que nous faisons de mieux, être nous-mêmes. Je suis Heidi, je suis la rassembleuse de ce sommet. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'ouvrir la première conversation en live avec Claire, que je retrouve. C'est la deuxième aventure dans laquelle elle s'embarque avec moi. Elle faisait déjà partie des conférencières de mon premier sommet. Et c'est un vrai plaisir pour moi de la retrouver dans cette nouvelle aventure. Merci d'être là, ma belle.
Merci à toi pour tout ce que tu déploies.
Alors, je vous raconte un petit peu. Je raconte aux gens qui tu es, puis tu complètes si j'oublie des choses. Alors, Claire Morinière, la femme qui prend soin en breton de soi, de la communauté, de la terre. Claire, elle est experte en médecine holistique et éducation somatique. Elle œuvre autour de la naissance et du décès, officiante de cérémonie, écoféministe, au cœur de l'éducation et la transmission populaire, fondatrice de l'école de sagesse Le Souffle des Baleines, et donc en Bretagne. Voilà un petit peu qui est Claire. Ce qu'on vous propose là, c'est qu'on va papoter un petit peu toutes les deux. Et n'hésitez pas à utiliser le chat, à nous mettre... vos retours, vos questions, si vous avez. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un temps aussi où Claire répondra à vos questions. Alors, soit celles qui sont écrites dans le chat, soit plutôt vers la fin, si vous voulez prendre la parole pour poser les questions en direct. Voilà, tout est possible. On va juste introduire un petit peu, papoter un petit peu, transmettre effectivement cette question de transmission populaire. Pourtant, c'est pas la première fois que je lis ta bio et c'est la première fois que ça m'impacte. Comme ça, là, aujourd'hui, cette question de transmission populaire, c'est exactement ça, en fait, qu'on est en train de faire dans ce sommet, je crois. Et du coup, la conversation d'aujourd'hui, tu as eu envie de l'appeler « L'ensauvagement, un acte de liberté suprême ». Pour poser un peu le cadre. Donc, moi, tu sais, qui vibre très fort, ce nom. est-ce que tu as envie de nous raconter pourquoi, peut-être ? Pourquoi ce titre-là, déjà ?
Ben, écoute... Quand le questionnaire est arrivé, c'était ça qui était présent pour moi. Et en ce moment, c'est vraiment ça qui est présent pour moi. Bon, depuis petite, mais là, bien, il y a des vagues comme ça dans la vie. Et en ce moment, c'est bien là.
Ouais.
Et je sens que... Ouais, pour moi, la liberté, ça a toujours été quelque chose de rendre les gens libres et autonomes et qu'on me laisse être libre et autonome, ça a toujours été mon cheval de bataille. Bon, j'ai pas toujours été appréciée ce que je dérangeais dans les repas de famille, je n'ai pas parlé de la cuillère, comme on dit. Mais en même temps, ça me permet vraiment d'accéder à cette souveraineté intérieure, cet axe, en fait. Et du coup, pour moi, ça, c'est de l'ensauvagement. Et quand on est ensauvagé, quand on est vraiment dans son instinct et son axe, voilà. Oui, d'être libre, ça dérange autour. Parce que, surtout quand la société fait tout pour ne pas qu'on le soit. Avec toutes les cultures, les rites, les mémoires, et tout ce qu'on vient, en fait, qui peut nous cloisonner à différents endroits, à différentes strates. Et l'ensauvagement, ouais, il n'y a qu'à observer les animaux et la nature, hein. Pose pas de questions. Hein. Quand faut mordre. Quand faut prendre soin. Il se pose pas 10 000 questions si c'est bon ou pas d'un terme intellectuel et mental. Juste, ils font ce qui est bon pour eux, pour leurs proches, et puis point. Et ouais, ça, c'est vraiment, je sens... Et point. Voilà, c'est juste faire ce qui est bon pour chacun d'entre nous. C'est hyper précieux et ça, à voir pour moi avec la légitimité aussi. D'être légitime, à être libre, en fait. Alors oui, on vit dans des sociétés, on ne vit pas seul, et nanani, nanana. Oui, il y a un cadre, oui, il y a des structures, oui, il y a des lois même. Mais la légitimité sera toujours au-dessus de la législation. Toujours, toujours, toujours. Et à un moment donné, on n'est pas obligé de dire oui à toutes les lois quand elles ne sont pas légitimes et qu'elles ne respectent pas le vivant, par exemple.
Oui, c'est ça. Se reconnecter à cette nature sauvage, c'est un pas, en fait, vers ça. C'est un... ouais, c'est une avancée sur le chemin, en fait.
Oui, d'oser vraiment être ce qu'on est. Et tant pis, les candidatons, les... Et tant pis.
Ouais, c'est ça. C'est une vraie invitation à... Tout à l'heure, avant d'enregistrer, on lisait un petit peu les commentaires et vous êtes nombreuses à être là pour reconnecter à l'intérieur de vous, en fait, d'aller chercher qui vous êtes, peut-être en partie, ou en tout cas de continuer de vous découvrir et d'aller contacter cette part sauvage. C'est ça aussi, c'est de marcher vers sa liberté, de faire ce chemin-là, à mon sens. Pour moi, effectivement, nature sauvage et liberté, ça va ensemble, en fait. Je suis d'accord, c'est clair. Et alors toi, je sais, moi, mais pas les gens qui nous écoutent, pas tous, que tu as un parcours de vie qui t'a amené à vraiment pouvoir contacter ça, en fait. Contacter ce que c'est cette nature sauvage, contacter ce que c'est être une femme sauvage dans différents endroits du monde géographique, je veux dire.
Ouais.
Si tu as envie de nous en raconter un petit peu.
Ouais. Ouais, ben moi, depuis enfant... Dès que j'ai pu voyager, j'ai voyagé. En fait, dès que je me sentais trop le cadre culturel de l'Occident et de la France en particulier, parce que c'est celui d'une nationalité française, je suis née ici, sur le territoire français. Ah, dès que je sentais un cadre culturel qui était trop enfermant pour moi et qui m'empêchait d'être complètement libre et légitime dans le prendre soin du vivant, ben je voyageais. J'allais ailleurs rencontrer d'autres tribus, d'autres peuples premiers avec qui ça, c'est évident. Il n'y a pas de doute sur la question. Et ça me nourrissait énormément. Et puis, en général, quand je jouais beaucoup en Afrique de l'Ouest, où j'ai beaucoup travaillé avec des tradis praticiens, des guérisseurs, des sages-femmes traditionnelles. Et bon, en général, au bout de 6 mois, je devenais un peu con et raciste, donc je rentrais. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est un autre rythme. Et donc, quand les rendez-vous qu'on se donnait pour des projets, mettre en route des bassins de spiruline, par exemple, et puis, ah oui, mais en fait, j'étais pas là parce que j'ai fait que je prête mon scooter à ma tante qui devait emmener la cousine qu'enfantaine. Il y avait toujours un truc, en fait. Et donc, ça m'allait bien au début. Et puis, en général, au bout de 6 mois, ça commençait à me taper sur le système parce que bah, j'avais la nature qui reprenait le galop. Donc, mon rythme culturel d'européenne. On fait les choses, il y a des horaires, on y va, quoi. Donc, je rentrais parce que je commençais à en avoir marre et je devenais con, quoi. Je devenais vraiment con et raciste à critiquer, à essayer de leur dire « Non, mais c'est bien quand on se donne des heures de les respecter, quoi. » Moi, qui débarquais là-bas. Donc, je rentrais... Et puis, en général, c'était un peu 6 mois, 6 mois, quoi. Au bout de 6 mois, j'en avais marre de la France. « Ah, mais ici, ils font chier, ici, on peut pas être libre, on peut pas s'expandre. » Donc, je repartais. Du coup, j'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça. Et aujourd'hui, dans ma vie, c'est toujours un peu ça. J'adore, en fait, quand on m'invite à aller à l'étranger, rencontrer d'autres cultures et transmettre et entendre et faire des ponts. J'adore ça. Et puis redonner la place en particulier aux femmes, en fait, qui sont libres et ensauvagées. Moi, ça me fait rire aujourd'hui quand j'ai des hôpitaux, Burkina notamment, qui m'appellent des services pour que je vienne les former à tous les outils traditionnels du monde de la naissance, quoi. Je leur dis « Ah oui, vous voulez que je vienne parce que je suis blanche et puis vous allez me prendre au sérieux. » Mais vous savez qu'en fait, moi, j'ai appris avec vos sœurs, hein, elles sont en brousse, hein, je peux leur dire, elles vont venir vous transmettre, elles vont venir à l'hôpital, ça sera moins loin. Ça fera pas un billet d'avion à me payer et tout ça, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et pour moi, c'est ça, c'est réhabiliter. Ouais, c'est réhabiliter et parfois refuser d'aller là où on m'invite et de dire, mais ça n'a aucun sens. Je ne vais pas aller vous transmettre quelque chose alors que moi-même, je l'ai appris avec
chez vous, quoi.
Donc, faites venir les femmes des brousses chez vous. Elles ont plein de choses à vous apporter. Mmh. Et par contre, je bataille en France pour... C'est pas vrai, je bataille pas, mais je suis hyper enjouée quand il y a des sages-femmes, par exemple, qui m'appellent et qui essayent de me faire rentrer dans des cursus de formation de sages-femmes pour transmettre autre chose. Bah, ça, j'adore.
Ouais. Ah bah oui.
Dit, bah oui, je ramène de l'ensauvagement, je ramène du sauvage et de l'intuitif et là où je suis, de ma culture. Et ça, c'est précieux. C'est précieux. Donc ouais, j'ai pas mal voyagé en Afrique de l'Ouest, après en Europe aussi, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Belgique et Guadeloupe aussi aux Antilles. J'aime beaucoup aller là-bas. Je trouve ça hyper riche. Ouais, j'adore en fait voyager et voir comment, comment d'autres cultures s'en sortent aussi, ouais, par rapport à ces espaces de liberté et ces espaces de rester dans ces espaces sauvages en fait, et que ça soit au niveau de la nature, prendre soin de la nature et en soi et autour de soi dans la communauté. Je trouve ça toujours très très riche d'aller à la rencontre de comment ça se passe ailleurs.
C'est ça, d'aller voir ouais, ailleurs comment ça se passe et redescendre un peu notre super piédestal de super occidentaux. Voilà, il y a un ego qui est quand même extraordinaire, je trouve, chez nous. Et en vrai, il y en a d'autres qui s'en sortent quand même nettement mieux sur cette connexion à leur nature sauvage, à l'intuition, à tout ce qui est instinctif. Clairement, ouais, tous ces peuples premiers sont nettement plus alignés avec ça, nettement plus connectés que nous qui sommes dans nos têtes, dans notre mental et dans le faire tout le temps, quoi. Alors que, ouais, de voyager, c'est un... Je suis d'accord, j'ai beaucoup moins voyagé que toi, mais c'est un moyen de s'ouvrir plein de portes, quoi, plein de conscience. Enfin, c'est un éveil des consciences, en fait. D'aller voir ailleurs comment ça se passe, pour le coup, c'est faire le pas, le premier pas, peut-être, vers déconstruire, vers cette idée de se rendre compte, en fait, déjà, de ce qui ne nous convient pas là où on est, et puis de déconstruire pour se réaligner derrière. C'est du changement par l'exemple aussi, en fait, ça. D'aller voir comment font les autres et de prendre exemple sur ceux qui s'en sortent bien, finalement. C'est pas très difficile.
Complètement. Puis ça, je sais que ça a été... Moi, j'ai appris là, il y a quelques mois, en fait, par mon grand-père maternel, qu'en fait, sa mère, il y avait des guérisseurs et des accoucheuses dans la famille. J'ai jamais parlé. C'est juste qu'on me disait, non mais tu sais, oh, tu devrais peut-être faire autre chose quand même. Et en fait, bah là, on en a parlé parce que, ouais, elles étaient un peu craintes, elles étaient beaucoup jugées. Et du coup, quand on a vu que j'étais un peu comme ça dès toute petite, il y avait un truc, oulala, bon, on va peut-être essayer de la cadrer, celle-là, ça sera peut-être un peu mieux. Et finalement, bah, j'ai jamais écouté ce qu'on m'a dit, en fait. J'ai toujours suivi mon instinct. Et du coup, bah, le fait que maintenant, je commence à être entendue, écoutée, alors la famille revient vers moi et j'apprends des choses. En fait. J'apprends dans mes ancêtres qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient ça. Et c'était marrant parce que c'est quand moi je racontais comment ça se passait ailleurs, je voyais toujours mon grand-père sourire, mais je me disais juste qu'il souriait, ce qu'il était content, quoi. Et là, il m'a dit non, je souriais parce qu'en fait, j'avais l'impression d'entendre ma mère parler. Je t'ai jamais dit que ton arrière-grand-mère faisait déjà ça. Ah, d'accord. Alors, ouais, c'est toujours intéressant. Et puis, je lis ton commentaire aussi, Lou.
J'allais te...
En même temps, et ouais, c'est toujours intéressant de savoir que l'humanité, elle date pas d'hier. Et qu'en fait, l'obstétrique est très, lui, date d'hier. L'art de l'obstétrique qui sont par la naissance, ça, c'est date d'hier, en fait. La médecine conventionnée date d'hier. Mais par contre, le prendre soin et les naissances datent depuis l'âge de l'humanité, en fait. Déjà, les hommes préhistoriques, quand ils allaient chasser et qu'ils se pétaient une jambe, c'est sûr qu'ils devaient trouver des trucs, des plantes et des cataplasmes pour se débrouiller et faire que ça aille mieux, quoi. Évident. Et bien sûr, c'est possible d'enfanter à la maison... Moi, j'accompagne sur tout ça, essentiellement ça. Moi-même, ma fille est née à la maison. Et là, c'est génial d'entendre des femmes, il y a 12 ans, il y a 29 ans.
Ouais.
Et puis, en tant que médecin, d'enfanter à la maison, en tant que médecin, et bah ouais, ça demande vraiment, je peux imaginer ça, de déconditionner quelque chose. Et... Bravo, je pense que c'est un... Il y a plein de manières de recontacter son instinct sauvage. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour le recontacter. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on devient mère, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'instinct et des tripes qui nous submerge, qui va au-delà et dans lequel on plonge avec.
Mmh. Ah bah c'est sûr que là, nous lancer sur ce sujet-là, en fait, on peut être là jusqu'à 19h toutes les deux. C'est effectivement un sujet qui nous passionne parce qu'on y croit très très fort à ça, à cette capacité de se relier à cette part animale, en fait, à ce côté très très intuitif et animal de pouvoir donner naissance, juste donner naissance, en fait, d'arrêter de faire tout un drame et d'arrêter de... Bah, j'ai fait un sommet là-dessus au mois de juin, donc je ne vais pas le refaire maintenant, mais d'arrêter de médicaliser ce qui n'a pas lieu de l'être, parce que la majorité des naissances n'ont aucune raison de l'être, en fait. Et donc, de juste faire confiance, et ça, c'est un vrai travail, c'est un truc énorme, en fait, de retrouver cette confiance-là. Et je te rejoins complètement, souvent, de donner naissance à un enfant ou à un projet ou à quelque chose, c'est une porte d'entrée, parce qu'on peut donner naissance à plein de sortes de naissances, en fait. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour aller recontacter ça, parce que pour faire sortir ces parts créatives, quelles qu'elles soient, eh ben c'est une force incroyable, en fait. Ce côté sauvage et ce côté animal qui ne se pose pas de questions et qui sait. Et qui sait. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment... Ouais, enfin de sentir l'élan de donner naissance ou d'accoucher, enfin, du coup on dit pas accoucher, d'enfanter à quatre pattes ou accroupi, ou bah bien sûr en fait, c'est un élan naturel ça. Ce que tu disais tout de suite, Claire, l'obstétrique est très récente, ces positions gynécologiques sont extrêmement récentes et absolument pas physiologiques. Donc évidemment que c'est possible, ouais, de donner naissance autrement et d'aller contacter cette part sauvage en fait, à l'intérieur de soi. Parce que, enfin moi qui ai aussi donné naissance. Bien bien à quatre pattes pour le coup c'est un portail quoi en fait c'est un vortex un truc qui s'ouvre et qui reconnecte à ses capacités réflexes en fait enfin je sais pas comment le dire instinctive intuitive et là pour le coup ouais, la femme sauvage elle a un beau rôle à jouer dans ces moments-là pour moi mais je sais que t'es d'accord.
Ah oui, complètement. Merci Lou ouais, de partager ton histoire, un bout de ton histoire, quoi. Ouais, l'égrégore sur la naissance, il est énorme. L'égrégore autour des femmes, quoi. Que quand tu as 30 ans, que tu dis que tu n'as pas d'enfant et pas de foyer, on te regarde, ah bon? Mais genre, c'est un projet, ça va venir.
Ça, c'est pour quand?
Et voilà. Alors qu'un homme qui a une trentaine d'années, en général, bah, il est dans son job, en fait. Ça choque personne qu'il n'ait pas d'enfant. À 40, ça choque personne. À 40 ans, une femme qui n'a pas d'enfant, on se dit, il y a un truc, quoi. Alors ouais, ça demande de tout déconditionner et que, bah ouais, dans cet espace sauvage et libre, quand on recontacte à l'intérieur, bah, on n'a pas toutes envie d'avoir des enfants. On n'est pas toutes faites pour avoir des enfants. Par contre, on a tous une part de féminin en nous qui demande à s'expandre et à être créatif, plus, plus, plus. Et en fait, il y a vraiment besoin de... Si je reprends la naissance, c'est la même chose pour un projet, quoi. En fait, pour chaque projet, on traverse les quatre... C'est bien plus complexe que ça, mais pour donner une grille un peu de compréhension et de lecture assez simple. On traverse les étapes de la roue de médecine, quoi. On traverse tous, à chaque projet qui émerge, les étapes de l'enfance qui est avec notre roue à nous, qui est l'est, l'air, la naissance. Et oui, la naissance d'un projet, ben, en fait, on l'a en tête. Peut-être on prend quelques notes, on gribouille, on dessine un peu. Puis après, et puis on commence à créer, ça foisonne. Puis après, il y a la phase du sud qui est liée à l'adolescence. Et qui est lié au lâcher prise, à la joie de vivre et au lâcher prise, juste la joie d'avoir créé quelque chose. Ouais, on a tout, puis hop, on rassemble tous les dessins qu'on a pu faire et puis tous les textes qu'on a écrits. Puis après, on passe à l'ouest où on devient, c'est l'âge adulte, c'est l'élément eau. Donc c'est OK, comment je vais rassembler, combien il va faire de pages mon recueil, quel titre je lui donne. Et puis toute la phase de est-ce que je l'auto-édite, est-ce que je trouve un éditeur. Enfin, je prends un exemple de projet, il y en a 10 000. Et puis la phase du nord, c'est lié à la sagesse, au troisième âge, et lié à l'élément terre. Et là, c'est du coup, ça y est, je l'offre au monde, il ne m'appartient plus. On peut se le procurer, ça y est. Et ça, on le voit chez une femme qui est enfante, quand elle est dans... Il y a les os qui perdent le travail qui démarre et qu'elle est hyper en joie de ça. Puis, ah, puis il y a la phase du sud où... Ah, mais l'eau est trop chaude, remets de l'eau froide dans la piscine, non, mais remets du chaud, ah, mais non, mais la musique ne me convient pas, j'ai faim, j'ai soif, je veux sortir, je. Voilà, la phase du feu, quoi, du sud. Et après, il y a la phase adulte, quoi, la phase de l'ouest, où elle rentre plus dans intérieurement, dans le vrai travail, ce qu'on appelle le vrai travail, où elle est vraiment avec son enfant et on sent. Puis la phase du nord, elle lâche complètement prise à ce qui est. Et elle laisse son enfant venir au monde comme on laisse sa création être dans le monde. Elle se laisse traverser par. Donc on retrouve toutes ces étapes à chaque processus d'enfantement, que ce soit d'un enfant ou d'un projet. Et ouais, merci de partager ça, Lou. Et qu'il y a plein de formes d'amener au monde un projet. Il y a plein de formes d'enfanter, oui. Ça peut être dans l'eau, ça peut être sur terre. Je lis en même temps à côté. Et oui, il y a un film magnifique, ce film Premier Cri. Il y a aussi Faut pas pousser. Il y en a un là qui sort demain où j'anime sur Auray. Pour ceux qui sont en Bretagne, au cinéma Auray, demain soir, il y aura le film, la projection du film À la vie qui retrace le parcours de Chantal, une amie collègue sage-femme. Et puis il y aura une discussion avec deux autres collègues sage-femmes à la suite. Et oui, il y a plein de manières en fait d'amener au monde des projets, des naissances et. Dans l'eau, pas dans l'eau, sur terre, de l'écriture, de la peinture, de la musique, faire son jardin. Il y a tellement de projets qui existent dans l'ombre dont on n'est pas au courant. Enfin, est-ce que finalement, quand vous êtes en train d'être attiré par un bouquin de recettes et puis vous vous mettez à acheter des trucs pour essayer des nouvelles saveurs, vous n'êtes pas en train de créer quelque chose?
C'est clair.
En fait. Du coup... Ouais, du coup, ça a beaucoup à voir avec quel regard on met sur nous-mêmes. En fait. Et je crois qu'on est beaucoup plus sauvage que ce qu'on veut le croire.
Oh oui, ça, je suis bien d'accord. Il faut juste s'en rappeler. Il faut juste s'en souvenir et recontacter ça. Parce que, par contre, quand on commence à recontacter ça, ces énergies libres et instinctives, bah, on revient difficilement en arrière quand même. Hein.
Oui.
C'est vraiment, on avance sur un chemin, quoi.
Ouais, c'est ça, par étape. Par étape, et puis, ouais, il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours dans chaque projet, donc on peut... Moi, je dis toujours, il y a plusieurs manières dans le monde. À chaque fois qu'on a des décisions à prendre ou qu'on prend une direction, on fait des choix, en fait. On dit oui à quelque chose, donc on dit non à autre chose. Oui. Et que des fois, bah, on commence le chemin, on a dit oui à une direction, on y va. Et puis, on se rend compte que finalement, ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Alors, soit on peut persister et aller toujours dans cette direction et puis attraper d'autres choses qui vont continuer à nourrir ce chemin. Soit on fait marche arrière, puis on prend l'autre direction.
Ouais.
Et voilà, et ça, les deux fonctionnent. Et suivant les périodes de vie, on fait l'un ou l'autre. Et les naissances, c'est pareil. Il y a des enfants qui arrivent, qui sont pile dans le canal, et puis d'autres, non, mais ils persistent. Puis du coup, ils vont avoir une épaule un peu coincée. On va les aider à décoincer l'épaule, ils persistent. Puis d'autres, ils vont faire marche arrière. Ils vont remonter dans le ventre pour se réengager. Et en fait, c'est ça dans la vie. On a le droit de faire marche arrière et se réengager dans un projet autrement, en étant plus ajusté. Ou on a le droit de persister en demandant de l'aide à l'extérieur, du soutien, pour continuer la direction de départ. Et tout est possible. Et je lis à côté aussi, ouais. Le portail chez les hommes, la prostate. Eh bien oui, je ne sais pas si Ludovic voudrait prendre la parole, parce que je trouve ça toujours intéressant quand c'est une parole qui vient de l'intérieur, qui est embodied, incarné. Mais ça. Oui, c'est l'équivalent de l'utérus, c'est la prostate, carrément. Et les hommes peuvent vraiment se nourrir depuis cet espace-là, depuis la prostate. Puis c'est hyper beau, en fait. C'est que dans le trajet aussi, pour eux, au niveau de la sexualité, c'est que dans le trajet des spermatozoïdes, les spermatozoïdes montent depuis les testicules, passent dans la prostate. Dans la prostate, ça fait comme un grand 8 et le toboggan dans le pénis. Du coup, il y a vraiment l'énergie du grand 8 là, qui se nourrit au niveau de la prostate. De la même manière que nous, c'est au niveau de l'utérus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut vibrer ensemble. Comment ça vibre entre la prostate et l'utérus? comment ça vibre individuellement chez les hommes, comment ça vibre dans le partage, dans la sexualité. Et ouais, c'est hyper. Et puis il y a de plus en plus, on parle beaucoup chez les femmes de cancer du sein, de l'utérus, mais chez les hommes, il y a de plus en plus aussi de. Bon, est-ce qu'il y en a de plus en plus parce qu'on les détecte plus
Oui, c'est vrai.
La fameuse question, on ne sait pas. Mais quand même, avec tous les perturbateurs endocriniens de tous les côtés, la nourriture, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui souffrent de. Ouais, de la prostate.
Ouais, mais parce que de la même façon que les femmes se sont déconnectées de leur corps pour monter dans leur tête, pour faire, les hommes, c'est la même chose aussi, en fait, quelque part. On est dans un monde d'objectifs, de performance, et donc pas dans les ressentis du corps, et donc pas dans l'être, mais vraiment dans le faire. Donc c'est exactement la même chose, à mon sens, de mon point de vue de femme, hein, évidemment. Mais effectivement, s'il y a des hommes dans l'Assemblée et que vous voulez prendre la parole, c'est avec plaisir de partager vos retours et vos expériences, parce que pour moi, effectivement, c'est un peu le même principe, en fait. De s'être coupé, d'avoir fait des espèces de morceaux de corps, quoi. En fait. Et oui, je lis, du coup, je lis aussi en même temps, on n'a pas appris à changer d'avis. Non, c'est peut-être ça aussi, en fait, de recontacter avec cette nature sauvage, et c'est la liberté dont tu parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut sonner juste à un instant T, puis... plus tard, et c'est comment c'est une question d'alignement, en fait, et comment tu accueilles ça, et comment tu poses les mots, et comment tu transmets ces idées de changer d'avis, en fait. Mais je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, et possiblement se reconnecter avec cette part sauvage, ça nous invite à ça. Enfin,
c'est lié à l'éducation, hein. C'est souvent changer d'avis. C'est associé avec la croyance que si je change d'avis, ça veut dire que j'avais tort.
Oui, je me suis trompée.
Et alors ça, comme on est éduqué avec l'erreur, c'est pas bien. On fait un petit melting pot de tout ça. Mais si un instant, on enlève cette croyance que changer d'avis, c'est associé à j'ai tort ou je me suis trompée. En fait, j'ai tort ou je me suis trompée, c'est déjà un jugement de valeur.
Ouais, c'est clair.
Je change d'avis. Ça reste beaucoup plus neutre. Je change d'avis parce que je prends conscience que la décision que j'avais prise n'est pas ajustée avec ce que je sens là dans l'instant. C'est pas parce que aujourd'hui, je sais pas moi, aujourd'hui vous vous demandez si c'est approprié, ajusté pour. C'est là maintenant dans l'instant, dans l'essence de qui vous êtes, dans votre instinct, dans votre sauvagerie intérieure. Eh bien, ça va vous dire non, si je m'écoute, c'est pas approprié. Ok, ça dit non. Mais peut-être demain, ça va dire oui. C'est ça. Et donc quoi ? C'est quoi ? J'ai changé d'avis ? Ah ben, je me suis plantée. Non, je ne suis pas plantée. C'est votre instinct là maintenant. C'est pas ajusté, c'est pas approprié d'aller pour les fêtes de fin d'année en famille. Et peut-être finalement, demain, ça dit oui. Et juste avant, ça va dire non, ça va redire oui. Et à un moment donné. Quand on est à plusieurs, si on s'est engagé, qu'on a dit oui, c'est des repas qui se préparent et tout ça. Et puis, juste avant d'y aller, si on fait jeu de qu'est-ce que ça raconte et quel instinct qui dit ah non, j'ai pas envie, et ben, c'est comment vous y allez avec ce ah non, j'ai pas envie. Alors, on n'est pas du coup obligé de rester longtemps. Enfin, il y a un plein de stratégies qui fait qu'on va pouvoir rester dans cet espace du non qui n'a pas envie, tout en étant dans les actes, dans oui, j'y suis quand même. Parce que ça fait 2 mois, on m'a demandé, puis pour savoir combien d'huîtres on commande ou que sais-je encore, bon, bah, si je dis non au dernier moment, ça va plus, quoi. Alors, c'est toujours ce truc-là. C'est pas parce que ça dit non, finalement, et qu'on y va, qu'on peut pas rester connecté à son instinct, dans l'instant.
Mmh. Ben, ça vient chercher l'authenticité aussi, en fait. Ça peut être cette idée de, ben, là, non. Mais je suis là quand même, mais je le dis, quoi. Ça vibre pas, et c'est des moyens d'apprendre à se connaître aussi, quelque part, peut-être, de changer de route. Et je vous rejoins, que je vous rejoins. Il faut du courage pour changer d'avis et pour porter ces voix-là à l'extérieur de soi, effectivement, parce que ça ne fait pas partie de ce qui est communément enseigné, acté, admis, je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai outil pour moi. Outil, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça fait partie du chemin. Cette idée de se reconnecter à ses instincts, c'est un moyen de se connaître et donc d'aller de plus en plus vers cette acceptation de ce que tu partages, Claire. C'est pas parce que je change d'avis que je me suis plantée, c'est juste j'ai évolué, mon environnement a évolué, mon contexte a évolué. Et donc, moi, je change et donc, les choses, elles peuvent changer aussi, en fait. C'est pas nécessairement un retour en arrière, en fait. C'est juste un virage, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est juste un virage et acter ce que acter avec, être congruent. Si l'instinct dit autre chose à ce moment-là, l'instinct, il se plante jamais. Hein. Jamais, jamais, jamais. Et il y a le mental qui peut se dire non, mais si tu fais cette décision d'arrêter de son boulot, quand même, ça t'amène la sécurité et tout. Tu vois, regarde, ça fait deux burn-out, mais tu t'en es sorti, donc quand même, tu vas pouvoir une troisième fois. Ça, c'est le mental qui rajoute des couches. Mais si l'instinct dit stop, alors ça ne veut pas dire que vous avez plus de sécurité en disant stop, parce que oui, c'est l'inconnu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi qui m'habite et... Mais l'instinct, s'il vous dit ça, enfin, je veux dire, l'instinct, il y en a qui vont l'appeler Dieu, le flot de la vie, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ce fait d'être sauvage, ce n'est pas autre chose que ça. Et on est tous habités par ça. Et si on n'écoute pas ce qu'il nous habite, il n'y a que ça qui nous maintient en vie au final. Parce que vous pouvez continuer à retourner au boulot alors que ça vous dit non et que ça ne vous convient plus. Et puis, du coup, un autre burn-out, puis le prochain, vous serez alité. Et puis vous ne pourrez plus du tout avoir d'énergie même pour faire ce qui vous plaît. Par exemple, j'invente des histoires. Mais c'est comment écouter pleinement ce qui est là. Et écouter pleinement quand je lis à côté des questions... comment faire pour se déconditionner? Je sens le poids du conditionnement, du bûcher, la peur du bûcher.
Ouais.
Le courage, avoir le courage, il faut beaucoup de courage. Comment dépasser ses peurs? Et ça, si vous voulez, on peut aller plus loin avec ça. Et juste avant ça, c'est parce que je n'avais pas répondu la prostate, l'eau. Dans la prostate, l'eau... Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est bien plus complexe. Pour faire très simple, la prostate, c'est un organe réceptacle, de la même manière que l'utérus. Et je n'irai pas plus loin là, maintenant. Mais il y aurait plein à raconter. Mais c'est plutôt la vessie qui est associée à l'eau que la prostate. Mais il y a quand même de l'émotionnel qui est lié à la prostate. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça serait carrément un cours de médecine holistique. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Et par rapport aux peurs, donc si je reviens à ça, quand je lis à côté, il y a pas mal de peurs. Comment empêcher que ça nous envahisse d'intuition plutôt que d'instinct. Maîtriser ses pulsions. Oui, on a la conscience et le sens moral, Julie, tu parles de ça, qui nous distingue des animaux. Oui, mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que le problème, en fait, c'est que le sens moral, parfois, nous amène à faire des choses qui sont complètement inappropriées par rapport à ce qui est bon pour nous. Par exemple, si je vous pose une question là, à tout le monde, est-ce que vous pensez que parfois, on peut mettre une tarte, une baffe à quelqu'un? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais rentrer quand je vous pose ces questions, je suis en train de rentrer petit à petit dans le déconditionnement des peurs, des craintes, de tout ça. Je démarre avec cette question pour vous faire aller plus loin si vous avez envie de ça. On a 15 nouveaux messages. J'ai crié, voilà. Quand je lis Nathalie qui dit j'ai crié oui, j'entends j'ai crié. Donc, ça veut dire que c'est le flot de la vie qui habite, qui a répondu. Oui, ça dépend si c'est de l'autodéfense, mais ça ne se fait pas. Voilà. Oui et non, je n'aime pas la violence. Voilà. Et ben, derrière tous les messages que je lis, il y a des messages pour certaines d'entre vous, certains, s'il y a des hommes par là. Mais je vais dire certaines, on va dire que c'est la majorité qui l'emporte. Comme d'habitude, on dit toujours si c'est toujours le il qui l'emporte, s'il y en a un, bah, moi je dis c'est la majorité.
Yes.
Alors, bah, la majorité, on dirait bien que c'est des femmes, donc je veux dire elles. Donc la majorité d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, parce que du coup, je travaille aussi depuis que je suis petite, je suis clairaudience, je suis médium, et il y a des choses que je vois, que j'entends. Il y a beaucoup de croyances, en fait, de la petite fille qui est devenue la maman sage, en fait, la femme sage, que en fait, mettre une tarte, c'est de la violence, que ça ne se fait pas. Non, je ne prends pas le droit de frapper l'intégrité. Alors, je lis peut-être pas tous les messages, hein, juste ceux qui m'apparaissent en même temps que je parle. Non, je ne prends pas le droit de frapper l'intégrité d'autrui. Alors, d'où elle sort cette croyance que donner une tarte à quelqu'un, c'est frapper son intégrité? Donc ça, c'est encore une croyance. La violence verbale est aussi destructrice que la violence physique, oui. C'est aussi une manière de ne pas répondre à la question. J'y vais, hein, j'y vais franco, hein, c'est pour vous dé... Parce que récupérer sa liberté, son instinct, c'est récupérer son yang aussi, hein. La partie yang en soi d'affirmer. Et gifler, oui, seulement si c'est pour que l'autre cesse dans sa folie. Et ben, en fait, gifler, ça fait partie d'une des choses que l'on peut faire. Parfois, suivant certaines situations, certains contextes, avec certaines périodes, oui, c'est approprié de gifler quelqu'un. Parfois, non. Vraiment, je répète, hein, pour vraiment que vous l'intégriez, ça dépend des contextes demandés à votre instinct. Parfois, c'est nécessaire, c'est approprié de gifler quelqu'un. Parfois, c'est plus approprié de ne pas gifler. De la même manière que parfois, c'est approprié que vous disiez ce que vous pensez. Parfois, ça va vous desservir, il vaut mieux vous taire. Et ce n'est pas parce que vous vous taisez que vous n'en pensez pas moins et que vous devenez une femme soumise. Non, c'est juste qu'en vous branchant à tout le contexte et que tout ce qui existe, et en vous branchant à votre instinct, ça va vous dire tais-toi. Si ça dit tais-toi, tu te tais. Si ça dis les choses, dis-le, même si tu as peur, même si. Alors on va enlever les croyances de peur pour que ça soit facile de dire pour toi. Mais parfois, on pourrait croire que c'est approprié et des fois, ça ne l'est pas du tout. Et alors, je vois la pratique de boxe française, repousser les limites, le sport de combat. Oui, c'est pour se déconditionner. Ça peut être un bel outil de se dire, allez, je vais faire un sport qui, a priori, est plutôt considéré pour les hommes et de voir qu'est-ce qui se passe. Et yes, Carole qui réexplique ce que tu voulais dire. Et oui, et du coup, c'est vraiment. Alors, s'il y en a qui osent dire à voix haute, parce que je n'ai pas retenu les prénoms des commentaires à côté. Mais les personnes qui disaient, qui sentent qu'elles ont des conditionnements, des croyances qui les empêchent d'être complètement libres et sauvages. Eh bien, si vous avez envie de le partager en direct, alors si c'est ça qui est présent là, moi je veux bien libérer quelques personnes de croyances qui sont là et que vous voyez à quoi ça, qu'est-ce que ça peut faire.
Merci pour cette proposition. Qui n'en veut?
C'est Cinzia au bout du fil là. Du coup,
Oui.
je me permets d'intervenir parce que l'une des plus grandes craintes qui revient systématiquement, c'est la peur du bûcher. Et j'ai cheminé sur le féminin sacré. J'ai avancé, j'ai fait les 13 mères originelles, je suis Moon Mother, nanana, nanana. Mais il y a toujours ce truc de quand je veux réellement affirmer qui je suis dans ma vie, il y a toujours cette crainte du on va finir par me brûler.
Oui, et ça, c'est parce que chez toi, il y a la. Tu me dis si ça résonne, hein. Je te dis ce que je perçois et tu me dis si ça résonne pour toi. Et quand je le fais pour toi, il y en a peut-être pour qui, pour d'autres, ça va résonner. Je sais qu'on n'est pas, on n'ose pas tous parler de nous, pas toutes parler de nous, mais quand ça libère une, il y en a d'autres pour qui je sais ça. Ah, moi aussi. Alors, c'est pour ça que je propose ça aussi. Et c'est pas pour exclure, c'est pour inclure tout le monde. Et Cynthia, ce que j'entends quand tu partages ça, c'est que tu as cette croyance. Tu as cette croyance que le féminin, que tu as besoin de réhabiliter le féminin pour qu'il reprenne un sens sacré parce qu'il ne l'est pas.
De restaurer le féminin qui a été abîmé, oui.
Oui. Et en fait, du coup, moi, ce que je vais te dire, c'est que le féminin, il n'est pas sacré, il est.
Oui.
Il est juste. Et maintenant, je te propose de rentrer à l'intérieur de toi et juste de te dire à toi-même, je suis féminine. Et de me dire comment ça résonne pour toi.
Ah, c'est bon. C'est bon. C'est léger et joyeux. Et y a quelque chose de... Je touche vraiment ce qui est... Je ne sais pas comment le dire. Qui est juste à l'intérieur de moi.
Yes. Et si maintenant tu te poses et tu te dis, je suis le féminin, comment tu l'as défini? Bafoué, blessé? Blessé, tu as dit, je crois.
Oui, je suis le féminin blessé.
Oui, écoute voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça dit non? Qu'est-ce que ça raconte pour toi?
Ça coupe en deux. Y a une part de moi qui dit clairement que je ne suis pas, enfin, que je ne suis pas ça. Y a une part de moi qui dit qu'elle n'est pas blessée. Et il y a l'autre part qui dit peut-être une, je sais pas, dans le ressenti, ça fait j'appartiens à quelque chose qui a été blessé. Et du coup, il y a une partie d'identification et pas l'autre. Enfin, c'est dans le ressenti, c'est pas mental, hein, ce que je dis. C'est dans le ressenti, il y a une partie qui dit ouais, c'est pas ça. Non, vraiment, on est dans autre chose, nous. Et il y a l'autre partie qui dit ouais, mais si, quand même un peu.
Est-ce que tu peux essayer de dire, de te dire et voir si ça change quelque chose, de te dire je suis la blessure du féminin.
Là, il n'y a rien de particulier.
Ça sonne rien.
Mentalement, j'aurais cru que ça allait sonner non, mais non. Ok, en insistant plus, ça dit oui et alors.
Voilà. Alors, va dans le oui, tu vois. Juste, dis-toi pas alors, va dans le oui. Prends pleinement responsabilité. C'est ça, être souveraine. Je suis la blessure du féminin. C'est pas l'extérieur qui t'a blessé, les mémoires ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est ton mental qui va chercher. C'est présent là, tout de suite, à l'intérieur de toi. Je suis la blessure du féminin. Et vois qu'est-ce que ça change. Est-ce que ça change pour toi quand tu te dis « je suis la blessure du féminin » ? Est-ce que c'est différent ? la sensation, le ressenti, ce que tu entends, ce que tu vois, tes portes d'entrée.
Ouais, ça vibre jusque dans l'utérus. Oui, ça vibre jusque dans l'utérus. Et il y a mon mental qui vient dire OK, comment on compose avec ça? Mais ça, c'est autre chose. Ouais. En tout cas, ça vibre.
Ah, on a perdu Claire, c'est quand même dommage. Oh, elle va bientôt revenir. Merci Cynthia de te prêter
avec
à l'exercice. Elle va
sans doute. Là, oui,
t'es là.
Est-ce que c'est différent alors pour toi, Cynthia, de dire je suis la blessure du féminin que de dire la partie de mon féminin sacré était blessée?
Oui, ça change la vibration à l'intérieur.
Ça change. Est-ce que tu veux partager?
Déjà, ça va vibrer jusqu'à l'utérus et, et tout mon bassin là est activé, on va dire. Et puis c'est ça, c'est prendre vraiment la responsabilité du truc. Je sens un truc du genre ouais, ok, c'est comme ça. Et il n'y a plus. Je prends la responsabilité du truc. Je sais pas le dire autrement. Si, enfin, je pourrais dire. Du coup, je vais plus chercher dans le patriarcat des responsables machin. Je prends vraiment la responsabilité du truc. Ok, il s'est vécu ça. Du coup, je transforme ça. Voilà, ou je vis ça. C'est tout.
Yes. Bah, félicitations à toi.
Merci.
Tu vois, comment me libérer des peurs et des craintes, il ne faut pas longtemps.
Super. Merci beaucoup.
Bravo.
Merci pour cet exercice. Joyeuse, tu levais la main. Vas-y, je t'en prie, ma belle.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, je suis très surprise par ce qui m'est venu pendant là, les dernières minutes, là, juste avant que tu me proposes de partager avec toi. Il m'est revenu quelque chose vécu au moment de la puberté. Je n'étais pas une petite fille violente, une jeune fille violente. Et un jour, dans le bus qui m'amenait à l'école avec mes camarades, il y avait un garçon qui embêtait tout le temps les filles. Et je me suis jetée sur lui comme une louve, en fait. C'était pas... J'ai pas du tout un souvenir de vouloir être méchante. Je pense que c'était vraiment un truc animal de « tu nous ennuies et je vais te donner une raclée ». Et donc vraiment, je me suis jetée sur lui. Donc, ils vont me voir et vont me dire. Et en fait, quand ça m'est venu, là, ça m'a vraiment surprise. Je ne repense jamais à cette histoire-là. Mais on a été punis, tous les deux, ce jeune garçon et moi-même. Et le souvenir que j'en ai, c'est qu'après, j'étais comme rejetée par les autres filles. C'est comme si j'avais fait quelque... Alors que moi, je l'avais fait avec une bonne intention. Lui aussi était vu un petit peu comme un garçon à part. Je pense qu'il embêtait les filles parce qu'il voulait notre attention. C'est pas juste, c'est pas comme ça. Enfin, bon, bref, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que nous, on s'est rapprochés. Moi, je suis devenue amie avec ce garçon qui vivait du rejet. Et... j'ai vécu le rejet aussi. Et en fait, ce qui m'est venu là, avec ces histoires de gifles, de est-ce qu'on peut ou pas, c'est pour le coup, moi, ça avait été comme un instinct, un réflexe de je défends mes copines et je rugis et j'avais pas l'intention d'être violente. Et en fait, on nous a pas demandé de nous exprimer. Il y a eu ce rejet et c'est comme si d'exprimer cette capacité à dire non ou à exprimer ma colère ou à enfin, mettre les mots qu'on veut, c'était le risque d'être exclu en fait, d'être et d'être exclue des femmes, en fait. Puis en plus, à la puberté, c'est pas pour rien que je te dis que ça s'est passé à ce moment-là. C'était vraiment un moment charnière, juste avant de devenir une adolescente, menstruée, une jeune femme. Et d'un seul coup, c'était comme si les autres filles me disaient « t'es trop » ou « t'es violente » et on va te rejeter. Et les garçons aussi m'ont rejetée. Donc on s'est retrouvés tous ce garçon et moi à devenir copains. Et puis en plus, on a été punis. Donc on n'a pas... Donc je crois que dans cette idée d'exprimer ma colère, il y a cette crainte, cette blessure, je ne sais pas si c'est une blessure, si je suis en colère, si je rugis, je vais être rejetée et je vais être prise pour une folle. Enfin, il y a de ça. Mais lui, très fort en t'écoutant.
Ouais, merci de partager ça. C'est sûr que la puberté, j'ai l'occasion régulièrement d'animer des rituels pour les jeunes filles de première lune, de passage, et en co-création avec elles. Il y a un tel bouleversement intérieur hormonal. C'est vraiment une période charnière, en fait, de vulnérabilité. À chaque grand cadran de la route médecine, on est hyper vulnérable et fort quand on est ado, quand on devient l'âge parent ou un grand projet ou avoir un enfant. Puis quand on devient sage, qu'on va vers la mort, c'est des grands passages où on est hyper fort, hyper vulnérable à la fois. Et j'ai l'image du bambou. Et particulièrement à l'adolescence, c'est ce besoin d'appartenir au groupe, à l'identité, puisqu'on est des êtres sociaux. Il y a des animaux qui sont solitaires, nous on est des animaux où on vit en groupe. On a besoin d'être en groupe. Enfin, de toute façon, un enfant qui naît, s'il n'a pas quelqu'un pour prendre soin, il meurt. En fait, on n'est vraiment pas fini pour être autonome. Et en plus de ça, on est des animaux qui vivent en groupe, les humains. Il y a vraiment ce besoin-là, cette reconnaissance-là. Et puis en même temps, c'est aussi l'âge où, à l'intérieur, on contacte un peu plus, on retourne ce qu'on avait enfant, quoi. On le revit avec une autre couche, s'affirmer, les valeurs, aller contre l'opposition, voilà, avoir des idées plus engagées, plus politiques, plus philosophiques. Et du coup, parfois, il y a des situations comme celle que tu partages où on peut... elles peuvent créer un trauma qui reste figé et cristallisé quelque part. Et tout à l'heure, c'était une croyance qui était là. Là, chez toi, c'est un trauma qui est là. Et du coup, alors je te propose, si tu veux t'intérioriser, de te visualiser toi-même en face de toi, comme ton propre hologramme, ton hologramme. Hein. Et puis me dire comment tu te vois. Est-ce que t'es gros? T'es comment? Quel âge tu as? Est-ce que tu es petite, en couleur, en noir et blanc, assise, debout?
En fait, j'ai de la difficulté à me voir. Mais en ce moment, alors là, j'arrive pas à me voir, mais en ce moment, sinon, c'est l'enfant que je vois beaucoup. La petite fille, mm-hmm. entre 7 et 14 ans.
Ok. Et t'es en couleur?
Si je suis en couleur?
Mm-hmm. Ou c'est en noir et blanc?
C'est pas clair pour moi, c'est pas distinct.
Ok. Ah, tu peux sortir de l'image. Si tu te demandes là, si tu te dis, tu vas me dire dans ton espace intérieur, dans ton espace sauvage d'instinct, de... Appelle-le comme tu veux, l'espace du je suis qui t'habite, vraiment toi dans tout ce que tu es. Est-ce que ça dit oui ou non quand tu te dis « j'ai la croyance que si j'affirme qui je suis, je vais être rejetée » ?
J'aurais tendance à dire oui.
C'est oui qui est là, ok. Est-ce que tu as une situation... Au-delà de l'adolescence, est-ce que tu as une situation en ce moment où tu sens ça, que si tu osais affirmer, tu pourrais être rejetée, que tu as cette croyance-là?
Oui, en fait, pour ce qui est du présent, j'ai souvent l'impression que si je raconte réellement, enfin, pas réellement, si je raconte la totalité de mon histoire, que ça pourrait me faire vivre des situations compliquées. C'est souvent quelque chose qui m'accompagne. Peur d'être très trop intense aussi avec mes émotions. Par exemple, depuis un peu moins de 2 ans, j'ai eu des situations où j'exprimais très fort mes émotions. Je me suis sentie... J'ai eu l'impression de faire peur, en fait.
Est-ce que tu as cette croyance que tes émotions peuvent t'envahir et te submerger?
Ah oui, totalement. Pardon. Oui, totalement. C'est quelque chose qui me... Ouais.
Alors, s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas, qui ont cette croyance que leurs émotions, leur hypersensibilité peuvent les envahir et leur desservir, ben, je vous libère de cette croyance.
C'est aussi simple que ça.
Libérez-vous de cette croyance. Quand je dis je vous libère, c'est votre propre espace à chacune de sauvage qui vous libère vous-même. Et prenez le temps de vous redemander la question après quelques minutes, en train de se faire, et de vous redemander, reposer la question, de voir ce que ça répond. Je crois que mes émotions peuvent me submerger et m'envahir, de voir qu'est-ce que ça répond. Ça dit quoi pour toi, joyeuse?
Ça dit encore oui, et c'est OK.
Ah, OK. Donc, ça a bougé.
Oui, parce que bien sûr que ça me submerge. Comme là, je sens du chagrin. Mais je sais que ça va aller.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux t'arrêter et dire « je suis le chagrin » Rentre à l'intérieur de toi, et plutôt que de dire « j'ai du chagrin », de dire « je suis le chagrin ».
Je suis le chagrin ?
Oui, répète-toi ça, à voix haute ou intérieurement, et vois si ça change quelque chose pour toi, de dire « je suis le chagrin », plutôt que « j'ai du chagrin ».
Trembler.
Si le sauveur chacun d'entre nous,
oui. Je sais pas, en fait, en t'écoutant, je me dis tout simplement peut-être que j'ai voulu rejeter ça, en fait.
Mm-hmm.
Peut-être que c'est encore quelque chose à t'écouter. Ce que je me dis, c'est que, enfin, ce qui me vient là, c'est que finalement, je repense à ce que je vous ai partagé tantôt. C'est comme si moi je m'étais rejetée aussi, je me rejette. Dans la colère. Vous me rejetez, alors je vais me rejeter aussi. Je vais rejeter que je suis le chagrin. Je vais rejeter que je suis la colère. Je vais rejeter que je peux être la folie aussi.
Mm-hmm.
Pas forcément mal.
Alors moi, ce que je te propose, tu vois, à partir d'aujourd'hui, pour toi-même, si ça résonne et que tu as envie de faire ce chemin, à chaque fois que tu sens que tu te dissocies de toi-même, il y a la tristesse quelque part là, mais c'est pas la mienne. Il y a la colère, mais tu remplaces par je suis. Je suis la tristesse, je suis la colère, je suis. Et laisse-toi traverser par tout ce que ça te fait vivre, tu vois. Et pour vraiment intégrer que tu es tout ça. Être sauvage, c'est être triste, c'est être en colère, c'est être joyeuse, c'est vouloir en mettre une et en mettre une. C'est prendre une amie dans les bras et la réconforter, c'est... C'est être cloué au fond de son lit parce que t'es crevé et que là c'est niette et qu'en fait tu vas demander un arrêt de travail de quelques jours. c'est finir d'écrire un bouquin, monter un sommet et faire plein de réseaux. C'est enterrer nos parents, c'est accueillir nos enfants, c'est faire à manger, c'est détester faire à manger et ne pas le faire et aller prendre un McDo. Parce que c'est ça qui est approprié ce jour-là, alors qu'en fait, tes valeurs, elles te disent non à McDo. Mais voilà, le sauvage, il est partout et en tout. Alors, être sauvage, des fois, quand tu es crevé, que tu ne dors pas et que tu es sur la route, là, tu vois, je peux te parler de moi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai passé 40 heures debout, une naissance qui a duré très longtemps. Je suis rentrée. Les seules choses ouvertes à 3 heures du mat, c'était McDo Drive, là. Je suis arrivée vers l'Orient. Ah, je déteste les McDo, puis les valeurs et tout, c'est pas mon truc, tu vois. Pourtant, à l'intérieur de moi, quand je questionnais le sauvage en moi, le je suis, tu vois, ça disait, arrête-toi à McDo. Mon mental, il a dit, certainement pas. Je ne suis pas arrêtée à McDo. Je rentrais chez moi, il restait des noix de cajou et une banane, il n'y avait rien d'autre. J'ai mangé une banane et des noix de cajou. Sauf qu'après avoir été 40 heures debout, j'avais bien besoin de dormir longtemps, longtemps, longtemps. À 9 heures, j'ai été réveillée le matin parce que mon estomac il grognait tellement il avait faim. Et là, je me suis dit, ah, tu n'aurais pas fait ton mental, il n'aurait pas fait son malin, il aurait écouté juste ton sauvage qui te disait arrête-toi au McDo. J'aurais dormi et j'aurais pu être au service de moi-même et d'autres bien plus tôt. Et là, j'ai ramé pendant une semaine, je tirais sur la ficelle parce que je n'avais pas récupéré mes heures de sommeil. Alors tout ça, c'est pour dire que parfois, le mental nous fait croire que ça, c'est pas sauvage, donc je n'y vais pas. Ou ça, c'est mauvais, la tristesse va m'encombrer, alors j'y vais pas. Non, c'est tout ça. C'est tout ça. Être sauvage, ça peut être courir à la première jour d'ouverture des sols. Si c'est ça qui t'habite là, eh ben, tu cours à la première ouverture des sols. Et ça peut être prendre ton sac à dos, ta gourde et ton couteau suisse et partir dans les bois quelques jours et dormir à la belle étoile. Mais il n'y en a pas un qui est plus sauvage que l'autre. C'est des croyances qu'on va se raconter.
J'adore. Derrière. J'adore.
Ouais, t'es pas la seule, je pense.
Merci beaucoup.
Et je lis à côté bah, les diagnostics. Moi aussi, j'ai été diagnostiquée comme ça. Et c'est pour ça aussi, je sens, et beaucoup sont comme ça ici. Et c'est important de... Ouais, c'est ça, être sauvage. Il faut juste faire ce qui est bon pour vous, quoi. Et de ne pas vous auto... rajouter une couche en vous auto-jugeant, quoi. Alors, si moi, j'avais été au McDo, si je reprends cet exemple... Et finalement, à mon mental, je me dis « Ah merde, quand même, McDo, gnagnagna. » Là, je suis en train de me créer une entité, en fait. L'entité du jugement sur moi-même. Donc, je vais juger que je suis quelqu'un qui n'est pas congruente, que j'ai fait quelque chose qui n'est pas en accord avec mes valeurs.
Est-ce que tu ne l'as pas laissé dans l'auto ?
Ce mental ? Ah non, c'est quelqu'un qui parlait de l'auto, mais pas pour cette histoire. Quelqu'un qui parlait
de... J'avais oublié de désactiver le...
Ça marche. Et ben non, et du coup, ben pour faire le lien, non, je n'avais pas laissé mon mental dans l'auto. Il était resté avec moi, le mental, et il n'arrêtait pas de se la ramener, quoi. Et il a pris le dessus, parce que la seule différence, quand j'ai lu tout à l'heure l'humain à la conscience et la morale, moi, je dirais que ce n'est pas la différence avec les animaux. Je pense que les animaux ont une conscience et une morale aussi. Et moi, je dirais la seule différence entre l'humain et les animaux, parce que l'humain est aussi un animal, c'est le libre arbitre. Jamais un animal va avoir le libre arbitre avec son mental qui va lui dire « ne va pas au McDo ». Jamais. À 3 heures du mat, il a faim, il va manger un sandwich de la poubelle, il va y aller. Quoi. Jamais il va se dire « ah non, c'est pas bio, c'est pas... donc je vais pas prendre, je vais plutôt aller voir la poubelle du gars boucher poulet bio là, si j'étais un chien, non ». Il va manger, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'humain qui a le libre arbitre qui la ramène tout le temps. En fait. Pour moi, c'est de mon expérience, je dis la seule différence, c'est ça. C'est le libre arbitre. L'humain a le libre arbitre d'écouter la part sauvage ou de ne pas l'écouter.
J'attrape au vol, j'ai hyper envie de rebondir sur ce que Carole, tu dis dans le chat. Donc, il suffirait de faire plusieurs actes d'ensauvagement par jour pour se libérer doucement mais sûrement. Eh bien, oui.
Oui.
Bien, exactement. Et être là aujourd'hui, c'en est un. en fait. Et les actes n'ont pas besoin d'être immenses et d'être tous faramineux. Et... Au contraire, des petits pas, des petits actes, des petites actions, des petits... c'est pas grave, je vais bouffer au McDo et puis je vais pas en mourir. Voilà, plein de petits pas comme ça, chacune vers vous-même. Je suis d'accord, c'est une médecine exceptionnelle, ça. Et ça, vous êtes les seuls à pouvoir savoir... ce qui est bon pour vous. Nous, on est là pendant une semaine pour vous transmettre en fait nos expériences, nos outils et tout ça. Et après, vous prenez ce qui résonne et puis vous faites vos petits pas.
Et là, Carole, je lis, on peut avoir la liste des actes. Et après, Lou, je vois au-dessus autonomie, indépendance. C'est pas la même chose. Je vais revenir après dessus. La liste des actes, eh ben, tu vas les trouver. Hein. Ça peut aller de... je vais chercher un carreau de chocolat que je vais manger dans la chambre ou je vais me recoucher, prendre mon petit déj au lit. Ah ouais, mais non, en fait, j'ai toujours dit aux enfants, on ne prend pas le petit déj au lit, ça met plein de miettes et tout. Non, mais je ne vais pas le faire. Si je leur dis de ne pas le faire, je ne vais quand même pas le faire. Ben non, tu le fais. Tu le fais parce que de toute façon, ils sont à l'école et puis ils ne verront rien de ce que tu as fait. Et puis voilà. Eux, ils ne se posent pas de questions. Hein, quand ils veulent piquer le carreau de chocolat pendant que tu es parti occupé à faire autre chose et tout, ah, ils ne se disent pas, non, mais quand même, on avait dit qu'on ne le ferait pas, je ne le fais pas. Non, en fait, tu fais. C'est une action, ça peut être je vous en ai dit un peu là, courir au sol, d'aller dans les bois, ouvrir un bouquin, ne pas finir un bouquin. Ça fait des années qu'on me dit il faut finir un bouquin. Ben non, tu as le droit d'avoir une pile de 20 bouquins au pied de ton lit, de l'ouvrir au pif, de lire un chapitre, puis paf, de le ranger parce qu'en fait non, puis tu le réouvriras dans 6 mois. Ça peut être un acte sauvage. Ne pas se forcer à faire à manger parce que on est mardi et que c'est le planning où c'est moi qui fais à manger, puis que c'est le jour où les enfants, ils ont mangé ça, donc je vais faire équilibrer, puis je vais faire des légumes. Et... En fait, tu as envie de faire des pâtes et il y a eu des pâtes à la cantine déjà le midi, bah, tu refais des pâtes ketchup si ça te tente, et bah, tu fais ça. Par exemple, c'est un autre exemple. Ça peut être passer du temps dans votre jardin, s'il y en a qui ont des jardins, passer le temps à écouter vos plantes, à passer du temps avec vos animaux, avec les gens que vous aimez, ne pas remettre à demain qui vous habite dedans et d'avoir envie de le faire.
Carole, si tu veux, je vois que tu lèves la main, si tu as envie d'intervenir en même temps, vas-y, je t'en prie.
Oui, merci. Ça me parle vachement, vachement. Là, c'est mon quotidien. J'ai eu une discussion il y a quelques mois avec mon mari où je lui disais, écoute, moi, je suis à la maison. Et on fait l'instruction en famille, donc je passe beaucoup de temps. J'ai quand même la casquette de femme, de mère au foyer quand même, même si je suis super sauvage. Et j'ai eu une discussion avec mon mari en disant, écoute, tu sais, ça fait des mois là que je fais à bouffer midi et soir, pendant le confinement, tu travailles, tout ça. Puis moi, ma vie change pas en fait. Je suis toujours là, je continue mon truc. Mais tu sais quoi en fait ? Et puis quand les potes viennent. C'est toi qui es félicité quand tu fais à bouffer parce que tu fais à manger quand les copains sont là. J'ai dit, bah, tu sais quoi, en fait, moi, j'aime pas faire à manger. Toi, tu aimes ça et tu fais bien à manger. Alors, si c'est OK pour toi, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus à manger du tout. C'est toi qui deviens le cuisinier, tout ça. Et c'est passé, ça a fonctionné quelques semaines. Et puis ensuite, j'imagine que sa culture, son éducation est remontée inconsciemment en disant « Non mais attends, tu es en train de faire la baisse 2 fois par jour là, et ta femme, elle fait quoi ?» ou je sais pas. Enfin bref, il y a un truc comme ça qui est revenu. Et là, dans mon quotidien, le truc de « Ouais, en fait, je vais manger une madeleine dans mon lit, ça va être plein de miettes, alors que je passe ma journée à rappeler les règles aux enfants en disant « Non, vous ne mangez pas là dans le lit parce qu'après, c'est moi qui mange, donc ça me saoule. » Et en fait... il y a 10 000 fois par jour où j'ai envie de manger des madeleines dans mon lit et je ne le fais pas parce que je me dis comment... Ça a l'air d'être un truc tout con, mais en fait, c'est un gros problème pour moi. Comment je dis à mes gosses que je n'ai pas respecté la règle que j'ai posée parce que, en fait, ce n'est pas si grave et puis, en fait, je suis une femme sauvage et c'est bon. Enfin, parce que moi, ce qu'ils me répondent, c'est tu fais ce que tu veux et pas nous. Et puis, c'est. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Ces petits actes d'ensauvagement, j'ai l'impression qu'ils me viennent un peu tous les jours, mais il y a toujours ce truc-là Comment t'expliques à tes enfants ou aux autres hein, que là, tout d'un coup, tu vas rugir, mais que c'est OK?
Ben, en fait, il y a les réponses qui se mettent à côté. Et c'est, je vais te dire parce que c'est ce que je voulais te partager. Tu vois, sauf que c'est toi qui ramasses tes miettes. Exactement. La règle, c'est pas, on n'a pas le droit de manger une madeleine dans le lit, en fait. Et t'as pas à expliquer, en fait. La règle, c'est si tu manges des madeleines dans le lit, après, il n'y a plus de miettes. Sauf que l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas la dextérité. Donc, en fait, c'est pas possible. Donc, ils vont dire, c'est injuste. Ah bah oui, mais ça, c'est pareil, c'est une croyance. On croit que le monde, la vie est dans l'harmonie et la justice. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, une fourmi, quand on marche dans l'herbe, on peut écraser une fourmi. On a plus de mal à écraser un éléphant. Ouais. La fourmi, elle dit pas, c'est injuste par rapport à l'éléphant. C'est. Dire, c'est toi la grande, c'est les petits, c'est un fait, en fait. Il n'y a pas toujours à expliquer, à se justifier.
Eh oui, eh oui.
C'est ça aussi, être sauvage, tu vois, recontacter, c'est juste dire, bah ouais, moi je mange des madeleines dans mon lit parce que bah, moi je suis adulte. Donc en fait, à partir de 21-22, là, j'ai toute la dextérité fine, donc je peux enlever toutes les moindres miettes dans le lit. Vous, bah ouais, c'est injuste, vous ne pouvez pas encore, mais ça arrivera plus tard. Par contre, il y a des trucs que vous pouvez faire que je ne peux plus, tu vois. Parce que ouais. Ce qui va avec la dextérité, c'est aussi payer des factures, organiser, les aider pour les devoirs. Enfin, il y a tout ouais, ça okay. Qui va avec manger des madeleines dans le lit, tu vois. Ils ne peuvent pas prendre ta place et tu ne peux pas prendre la leur. Tu as vécu enfant, ils vivent leur phase d'enfant et ils vivront plus tard yes. À ce point. Tu vois, il y a un truc, c'est...
Ok.
Et ça, c'est être bienveillant, tu vois.
Ouais. Mmh.
C'est juste mettre la règle, la détailler, tu vois.
Ouais, c'est ça.
On n'a pas le droit de manger des madeleines au de lit, c'est OK. Par contre, il n'y a pas une miette derrière, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a des miettes derrière. Ah bah oui, tu n'as pas de chance, tu n'arrives pas à manger des miettes. Moi, j'ai de la chance, j'y arrive. Mais bon, je veux dire, j'ai pas de chance, c'est moi qui gère les factures. Toi, tu as de la chance, tu peux jouer pendant ce temps-là. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, en fait. C'est enlever ce conditionnement aussi qu'on a, qu'on peut avoir, que d'être bon, bienveillant, c'est amener la justice et tout ça, mais ça demanderait de définir c'est quoi la justice. La vie est injuste. Et c'est comme ça. Mmh. Dire la vie est injuste, et c'est ce qui nous fait aussi pleinement d'accueillir ça, c'est ce qui peut nous permettre pleinement d'accueillir la part sauvage en nous et d'accueillir la vie telle qu'elle est. Pourquoi il y a des familles qui perdent un enfant, un de leurs enfants qui a 3-4 ans? On pourrait dire, bah, c'est injuste. Non, c'est la vie. Mmh. Après, tu peux vivre de l'injustice, de la colère, et je ne remets pas ça en question, et être triste et bouleversé parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses habituelles. Mais c'est la vie. Mmh. Est-ce que c'est injuste qu'un nouveau-né, on le prenne dans nos bras et qu'on passe plus de temps et qu'on l'allaite et qu'on passe moins de temps avec celui qui est plus grand?
Non. Oui, oui, d'accord.
C'est pas injuste, c'est juste la vie, c'est comme ça.
Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ferait que, par exemple, j'ai recommencé à faire la bouffe?
Est-ce que tu avais vraiment faim? Est-ce que moi, je sens derrière toi qu'il y a encore ce schéma dans lequel tu es de mère sacrificielle?
Ah, c'est clair.
Et tu l'as dit au tout début, quand tu as dit on fait l'IEF, et moi aussi, j'ai fait l'IEF pendant des années, et que tu as dit, bon, même si j'ai ma part sauvage, je suis quand même avec l'étiquette mère au foyer. Déjà ouais. Là, il y avait la croyance qu'une mère au foyer ne serait pas une femme sauvage. Tu as scindé les deux.
Alors, oui, c'est ça.
On peut enlever ça tout de suite. Et la femme au foyer est une femme sauvage.
Yes.
Oui, et j'y crois, en plus.
Oui, et c'est au-delà de la croyance, c'est un fait.
Mm.
Toutes les femmes sont des femmes sauvages. Tous les hommes sont des hommes sauvages. On est des animaux. Tu es sauvage. Mm. Tu n'as pas besoin d'aller dans une formation et passer 3 jours dans les bois et faire du tambour chamanique pour être une femme sauvage. Tu es une femme sauvage à faire l'IEF à la maison et gérer tout ce que tu gères. Et tu n'es pas obligée de te sacrifier Quand tu te sacrifies, c'est aussi ça que tu transmets à tes enfants.
Et oui, ça oui, ça j'ai bien, c'est bien intégré ça.
Alors juste, pose-toi à chaque fois la question, est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je le fais parce que c'est mon tour? On ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mon tour de faire le ménage de la salle d'eau parce qu'on s'organise comme ça dans la famille. Bon, bah, c'est mon tour, je n'ai pas envie de le faire, mais c'est mon tour. Ou est-ce que je le fais, mais je sens vraiment au fond de moi que ce n'est pas juste? Alors là, tu rentres dans la mer sacrificielle. Et ouais. là, tu te perds toi-même.
Ok. Ok.
Ça te parle?
Complètement. En fait, je fais des sauts entre la femme sauvage et la femme sacrificielle. Il n'y a pas de juste milieu. Toute la journée.
Oui, c'est ça. Et comment tu peux être sauvage, tu vois, si tu rappelles la règle de la Madeleine, tu es sauvage tout en étant la maman. La maman au foyer qui tient le cadre et la structure.
Mmh. Ouais, c'est ça. Ok. Merci.
Avec plaisir. Bravo à toi d'ouvrir ces portes-là. Et je fais le pont avec Lou, ce que tu partageais à côté de est-ce que vouloir être autonome à tout prix, c'est naturel ? On est interdépendant. De vouloir être indépendant, ça, c'est pas naturel. C'est un concept du mental. Parce qu'on est interdépendant. Encore une fois, on est des animaux où on vit ensemble. On a besoin des uns des autres. Être autonome, c'est le chemin. On est infantilisé. On vit dans des sociétés où on cherche toujours la solution à l'extérieur de soi. Ouais. Mais en fait, là, en même temps que je vous parle, ou que certains, j'ai libéré des traumas, des croyances, puis d'autres aussi. Vous pouvez le faire, ce que je fais là, ce n'est pas moi, Claire, qui fait quelque chose pour vous, c'est moi, Claire, qui deviens vous, je me mets dans ce que vous êtes, je deviens vous et je libère juste des parties de moi-même. Si je deviens vous, je ne fais que libérer des parties de moi-même. Donc, vous pouvez le faire pour vous-même. Et être autonome, c'est redevenir pleinement sauvage et animal. Et quand on est pleinement dans son axe sauvage et animal, alors on peut rencontrer d'autres personnes. Mais pas par béquille, pas par... Il n'y a plus de chantage affectif ou de besoin. Ce n'est pas je demande l'autre parce que j'ai besoin, c'est parce que j'en ai envie. Je peux faire mon jardin toute seule et creuser mes trous et ranger 2 tonnes de terre. En ce moment, je suis à faire des travaux. Je peux le faire toute seule. Mais je n'ai pas besoin de demander de l'aide, mais j'ai envie. Ça me fait plaisir de faire ça à plusieurs. Et je trouve ça plus juste de le faire à plusieurs que de moi m'atteler à ça et de moi être disponible pour d'autres personnes en individuel ou pour des décès, des naissances. Alors, mais j'ai envie. Mais dans l'absolu, je peux faire toute seule. Je n'ai pas besoin des autres pour creuser un trou et planter un arbre que j'ai été récupérer un mini chêne dans un bois et le mettre chez moi. Je n'ai pas besoin d'autre, j'ai juste besoin de temps et pour le faire. Mais j'ai envie de faire avec d'autres. Et c'est différent d'avoir besoin ou envie, comme c'est différent d'être indépendant et autonome. Et d'être indépendant, c'est de vouloir être indépendant, ce n'est pas normal. De vouloir être autonome, c'est un mouvement naturel du flot de la vie qui nous habite et qui nous apprend à devenir responsable et pleinement autonome. Ça va ensemble et libre, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je te partage, Lalou, et ce que je vous partage, tu me dis. Mais c'est comme ça que ça résonne quand je lis ton message.
Jeanne-Laure, tu avais envie de rebondir tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, bonjour Claire, bonjour à toutes. Déjà, merci pour... Merci, mais enfin, vous êtes 15 000 derrière. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Carole, tout à l'heure. Pour l'exemple de la Madeleine, moi, ça m'est arrivé il y a 3 jours, donc ça m'a fait claquer claquais de rire quand tu parlais de ça. On revenait des cours, c'était clairement pas l'heure, il était 18h30, voilà. Et mon fils de 7 ans m'avait, enfin, on a fait les courses ensemble parce qu'il consomme autant que moi, donc c'est pas que moi qui fais les courses, voilà. Je suis au deuxième étage sans ascenseur, donc voilà, c'est un peu sportif. On arrive et puis je lui dis, bah écoute, c'est carrément pas du tout le moment, mais moi ce que j'ai envie, c'est d'une madeleine aux pépites de chocolat, quoi. J'ai vraiment envie de ça. Et du coup, il m'a dit, oh ouais, c'est carrément pas le moment, mais on va faire ça. Et en fait, des fois aussi, alors moi j'appelle ça des craquages. De faire ça, ça permet aussi d'aimer la discipline, d'aimer les choses qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que si on est tout le temps dans le oui, dans le non, bah même adulte, enfin c'est, enfin moi, mon côté sauvage, ça m'étouffe de tout le temps répondre aux trucs, aux bidules. Et de temps en temps, bah, de se permettre un truc qui est complètement… bah voilà, moi, des fois, quand je le sens trop… je ne sais pas, trop grognon, eh ben j'envoie un mail 2 jours avant à sa maîtresse et je vais lui dire qu'il va être absent toute la journée. Et je me débrouille professionnellement et je le retire et on va à la mer toute la journée. Alors, il pleut, il vent, il y a de la grêle, mais je sens qu'il a besoin de ça et oui, et ce n'est pas du tout bon. Et oui, je décale des rendez-vous et oui, je ne satisfais pas certaines personnes. Mais des fois aussi, c'est ça qui nous fait dire oui à beaucoup de choses ou qu'on aime aussi respecter les règles des autres ou les siennes qu'on a mis en place. Donc, de temps en temps, les petits craquages, franchement, bah, je trouve que c'est… Je ne sais pas, enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, voilà. Et je rebondis sur l'histoire du repas, tout ça, tout ça. Alors, moi, j'ai vécu ça sur les 3 confinements. Enfin, voilà, ça a été un truc de dingue parce que mon ancien conjoint, ses 2 collègues, ils ont eu le Covid à tour de rôle. Où c'était leur femme. Donc, en fait, pendant 1 an et demi, il a été tout seul à faire 3 jobs. Enfin, un truc de fou, bref. Je ne l'ai pas beaucoup vu. J'ai vu la porte fermée beaucoup. Et en fait, un jour, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais en fait, pour moi, ma définition de la femme, donc maintenant, je sais que ça s'appelle femme sauvage, mais avant, j'étais loin de tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui est forte, mais qui aussi est sensible. Donc, à midi, on a parlé de vulnérabilité, tout ça. Bon, moi, je dis sensible. Et en fait, ben, j'ai osé demander de l'aide. En fait, un jour, je me suis assise et ils attendaient que tout soit là. Je n'avais rien fait. Et oh mon Dieu, je n'avais pas à nourrir mon fils 20 minutes après l'heure que depuis qu'il est né, il mange et bidule. Et en fait, ben, j'ai dit, je vous demande de l'aide. Parce qu'en fait, je ne suis pas la responsable attitrée de la nourriture ici, en fait. Et du coup, j'ai vu limite de la panique dans leurs yeux. On aurait dit que j'annonçais la fin du monde. Enfin bon. Et ça a été très dur pour moi de demander de l'aide, de ne pas les satisfaire, de ne pas tout ça. Mais en fait, j'ai cassé un truc. De façon très simple, hein. Je ne suis pas allée faire une cure ou je ne sais pas quoi. Ça a été très simple. Et depuis ce jour-là, eh ben, je rectifie toujours. Quand il y a quelque chose, mais des fois, c'est rien. Des fois, peut-être, on peut me trouver un peu tatillon sur ce point-là, mais je ne lâche pas. Et ça, c'est ma lutte au quotidien. Parce que je me dis, mais un jour, mon petit gars, il sera avec une femme ou un homme, qu'importe, ou 18 000 personnes, je m'en fous. Eh ben, je me dis… Ben, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie qu'ils prennent la liberté de quelqu'un en disant bah, toi, tu es responsable des courses, toi, tu es responsable. À part s'ils sont mis d'accord, il y a des couples qui se mettent d'accord sur des tâches, tout ça, mais bon, je vais faire court, demander de l'aide, et ben en fait, c'est très beau. Peut-être on se sent nul ou faible, et ben en fait, moi, je me suis imaginée une femme qui me demande de l'aide. Ben, moi je trouve ça très, ou un homme, hein. Ou un homme qui vient, oh, c'est encore plus beau, je trouve, dans mon entourage, je trouve c'est encore plus beau, un homme qui vient et qui demande de l'aide, je trouve que c'est une forme de puissance, d'intelligence, et de, il faut être humble et avoir vachement confiance en l'autre pour faire ça. Donc voilà, donc ce que j'avais à dire, c'est demander de l'aide, ben, c'est bien aussi des fois.
Mais parce que c'est une forme de respect, en fait, aussi, mine de rien. Et la femme sauvage, elle se respecte, en fait. Donc c'est, ouais, bravo. Et bravo de rester alignée avec ça constamment, parce que Un chemin aussi, ça. Claire, avec ton demi-craquage, du coup. Je te laisse finir ta bouchée.
Ouais, c'est bon.
C'est bon.
Ouais, quand j'ai faim, je mange. Alors, du coup, j'ai toujours des trucs à grignoter pas loin.
Exactement. On va faire ça, on va faire des goûters, femme sauvage. J'aurais dû dire ça comme consigne. Amenez vos goûters.
Ouais, c'est ça. Et les poires, ça fait moins de mettre. Ouais, ouais, carrément. Ça fait du baf. En même temps, ça fait du jus, ça colle après les doigts. Pour les
ouais,
poires, c'est génial, ça. Mais il faut avoir la petite serviette, quoi, en termes d'organisation.
Mais la femme sauvage, elle peut s'organiser aussi, hein.
Ah ouais, 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 ouais. Ah, elle peut même avoir un ordinateur portable, tu vois.
C'est ça. Peut être connu.
Et râler quand ça capte pas, aussi.
Ouais, ah bah ouais, grave. Ça, c'est clair. Merci pour tous vos partages. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de... Quand j'ai faim, je mange. Bah voilà. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de rebondir ou poser des questions? On a à peu près suivi. Normalement, on n'a pas loupé de questions, mais s'il y en a qui ont encore l'élan.
Agathe, qui lève la main.
Oui.
Ah, j'ai pas vu, vas-y, je t'en prie.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Ouais,
oui, okay.
Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Claire, par rapport au fait, ton histoire du McDo, qui était très drôle. Et en fait, moi, j'ai vécu un peu une situation parce que j'ai décidé, en fait, de plus manger de viande ou de moins manger par éthique animale. Et au début, ça a été tout un truc parce qu'autour de moi, on ne comprenait pas. Je faisais partie des bobos qui ne voulaient plus manger de viande, etc. Et j'ai trouvé un truc génial, c'était d'assumer complètement en fait, que j'étais illogique par moment. C'est-à-dire qu'on me disait, bah ouais, mais... Du coup, tu manges plus de viande, mais tu fais quand même des fois des extras avec. J'adore le jambon truffé. Et du coup, je fais quelques extras. Et j'aurais dit, effectivement, j'essaie de plus manger de viande, mais là-dessus, je ne suis pas logique. De temps en temps, j'ai envie de ce petit extra où on disait, mais tu manges plus de viande, mais tu manges toujours du poisson. Et je disais, ouais, c'est vrai, c'est pas logique. Mais c'est OK pour moi. Et en fait, à partir du moment où j'expliquais que je faisais ça, effectivement, mais je faisais pas ça et c'était pas logique, ben en fait il y avait plus rien à dire. C'est-à-dire que les gens, ok, il y avait plus, ça coupait très court en fait le débat. C'est que je fais ça et je fais ça, je sais que c'est pas logique mais c'est ok pour moi. Et du coup moi j'ai trouvé que c'était une bonne solution en fait pour déjà accepter soi-même en fait, se dire bah ouais en fait je fais ça, c'est pas si logique que ça mais ça me va. Et pour, en fait, aussi, pas rentrer dans des débats avec les gens, en fait, qui, en plus, n'amèneront à rien, parce que chacun a ses croyances, chacun... Voilà. Donc, c'était un petit partage.
Bah ouais, merci de partager ça. Oui. Puis je lis à côté, tu es flexitarienne, en fait. De dire que tu es flexitarienne, c'est déjà te remettre dans une case. On s'en fout que tu es flexitarienne, végétarienne, végétalienne. Carnivore ou que sais-je, ou crudivore ou je sais pas, ou pranique ou
ça dépend
on s'en tape en fait, tu vois, et tu l'as très bien dit, c'est bah ouais, c'est pas logique, mais en fait est-ce qu'on a besoin d'être logique? Est-ce qu'on a besoin d'être logique pour être crédible? Est-ce que si je dis quelque chose maintenant et que je dis l'inverse dans 5 minutes, alors j'ai la croyance que je vais perdre toute crédibilité. Et du coup, je ne vais pas être reconnue et acceptée par le groupe. Bah non, là, dans l'instant, samedi, j'ai envie de manger le jambon truffé. Et puis demain, samedi, ouais, quand même, les animaux et tout, je vais un peu ralentir là. Bon, bah, aujourd'hui, je ralentis. Demain, je réaccélère. Après, je ralentis. Et voilà, en fait. Et c'est ça, ce qui me vient là, tu vois, c'est... En ce moment, il y a plein de manifs. Alors, de manière générale, il y a toujours plein de raisons de manifester. Par exemple, j'invente. Je prends la cause... Moi, j'adore les baleines. Je prends la cause des baleines. Je mets des catégories volontairement. On va dire, il y a trois grandes raisons de protéger les baleines. Les cétacés. La première raison, c'est des personnes qui se disent « Ah non, mais là, en fait, ça va droit dans le mur, il y a l'extinction d'espèces, il faut absolument faire quelque chose, si on ne fait rien, on va droit dans le mur, bientôt, il n'y a plus de toute baleine. » La deuxième raison, c'est « Non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de bien, c'est pour se convaincre d'être quelqu'un de bien. Je vais protéger les baleines, je passe du temps à faire ça, puis moi, je prends soin des animaux, j'ai arrêté de manger de la viande, non, non, non. » La troisième raison, c'est ah bah alors moi, je me suis engagée dans telle asso, il y a un truc qui m'appelle, j'ai juste envie là de protéger les baleines. Bah, il y a une seule raison qui est vraiment libre et sauvage, c'est la dernière. Celle d'avant, c'est le mental, c'est des histoires qu'on se raconte. Et en fait, voilà, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est pas plus simple que ça. C'est, si ça dit à l'intérieur, et bah, c'est que c'est ça. Le reste, c'est du blabla. Et si tu protèges les baleines parce que tu penses que l'espèce va s'éteindre si tu ne le fais pas et qu'on va droit dans le mur, c'est une mauvaise raison de le faire. Si tu le fais pour te convaincre que tu es une bonne personne et que tu prends soin de l'écologie, que tu deviens écologique, que tu arrêtes de manger de la viande et que tu protèges les baleines, c'est une mauvaise raison. Si tu le fais parce que tu as un élan à l'intérieur qui dit « Tiens, là, franchement, j'arrêterais bien un peu de manger de viande, ça me dit bien, quoi. » Et puis que le lendemain, tu en manges, ça, c'est une bonne raison. C'est la seule qui tient dans la durée. Sinon, c'est encore être enfermé dans des schémas, en fait. Et du coup, ouais, la même chose que je disais tout à l'heure, de croire qu'une femme sauvage, ce serait celle qui a fabriqué son tambour, qui sait dépecer des peaux et puis qui anime des formations et qui sait vivre dans les bois 3 jours toute seule, quoi. Mmh. Et puis que celle qui, avec ses talons et qui court au sol, des machins, bah, elle n'est pas sauvage. Ah bon ? C'est quoi être sauvage ? Enfin, ça demande de définir, en fait. Être sauvage, c'est rester connecté à son côté animal et de ce qui nous habite. Bah, l'être humain est un animal avec un cortex préfrontal très développé qui fait que dans son parcours de vie, cette espèce a créé des magasins, des vêtements, des lignes, des architectes, des gens qui travaillent dans la mode, le stylisme. Ouais, bah voilà. Donc, ça fait partie. Le sauvage, il est aussi là, il est partout. C'est vraiment une question de regard. Et c'est aussi, quand je dis ça, c'est aussi pour enlever les jugements qu'on peut avoir les uns envers les autres et les unes envers les autres.
Oh là là.
Parce que combien de jugements on peut avoir ah, mais tu sais, de dire aux copines, quoi, qui sont en mode solde, talon, vernis assorti à la tenue. Ah, tu sais, mais ça serait cool, tu devrais faire le stage, là, tambour, tu vois, ça serait connecté à son... Mais qui ne dit pas que quand elle met son vernis, qu'elle est à table avec ses enfants et qu'en fait, elle est plus sacrificielle et qu'elle fait ce qu'elle a à faire et qu'elle gagne du temps à mettre son vernis pendant que le truc il chauffe, est-ce qu'elle n'est pas en train d'être sauvage quand elle fait ça ? À s'écouter pour gagner du temps parce qu'elle veut se coucher tôt et se faire un masque et dire tranquille et comme ça, elle aura déjà le vernis assorti la tenue du lendemain. Et bien alors ? Donc demandez-vous si vous n'êtes pas vous-même. Si vous-même, vous n'avez pas une idée préconçue de qu'est-ce que c'est être une femme sauvage, et par rapport aux femmes autour de vous, est-ce que vous les jugez ? Est-ce qu'il y en a certaines que vous jugez loin d'être sauvages ? Si oui, pourquoi ? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Ah, il y a Cathy ! Oh là là, c'est génial, je vois un visage. Ah, ça fait des années, quand j'étais dans l'Aude. Cathy qui est née le même jour que ma fille. Génial, et qui a été l'instit, entre autres, de ma fille. Ah, c'est chouette de te voir, Cathy. Du coup, il y a Luna qui a entendu, qui réplique. Ah, c'est chouette.
Merci pour vos partages, vos questions, votre authenticité. Ce midi, je disais que j'ai l'authenticité hyper à cœur et je vous remercie de faire ça aussi, vous, d'incarner ça aussi, c'est vraiment chouette.
Et puis juste pour finir, je ne dis pas ça pour provoquer et je ne dis pas que c'est mauvais, hein, les tambours chamaniques non plus, et tout ça, hein, faire des médites pour reconnecter à la part sauvage en vous. Hein. Si vous avez c'est juste si vous le faites, ayez conscience que vous le faites parce que vous avez besoin de cette béquille-là pour vous accompagner à recontacter ça. Mais ne le faites, Faites-le si ça vous appelle, mais ne le faites pas parce que vous êtes convaincu que c'est comme ça que vous allez devenir sauvage. Parce que la vérité, c'est que vous êtes déjà sauvage, toutes.
Si ça, c'est pas un mot de la fin parfait. Ah, génial. Est-ce que tu as envie de nous raconter un tout petit peu, celles qui voudraient aller plus loin avec toi, comment elles font quand même pour te trouver, te découvrir, te...
Alors, bah, moi, dans mon côté sauvage, je ne suis plus... Il y en a peut-être quelques-unes d'entre vous qui m'ont mandé amis sur Facebook où je réponds, mais en fait, je ne publie plus rien sur Facebook. J'ai juste gardé parce qu'il y a Messenger et que j'ai des personnes qui me contactent pour des décès, notamment via ce biais. Donc, je n'échange plus sur les réseaux. Donc, le meilleur moyen, c'est mon site internet, clairementhenière.com. Vous pouvez vous inscrire à la lettre d'info. Vous recevrez un atelier sur le périnée, la base, qui est valable pour tout le monde. On en a tous un, même enfants, même les hommes, il y a depuis le début, quoi. Et c'est la base, hein. C'est pour moi, être sauvage et libre, ça démarre aussi. Et il y a FEA qui va finir cette semaine, qui vous parlera sans doute du périnée, c'est un peu son dada. Parmi plein d'autres choses, comme moi, mais elle a beaucoup axé sa ligne sur ça. Et voilà, le périnée, c'est aussi comment on marche à quatre pattes. Est-ce qu'on nous laisse marcher à quatre pattes? Est-ce qu'on nous laisse grimper aux arbres? Ça nous donne une assise. Comment on porte nos enfants? Est-ce qu'ils sont toujours en transat poussette? Est-ce qu'ils sont portés de manière physiologique? La base, la confiance en soi, c'est la base de l'ensauvagement, elle est là. Donc voilà, en vous inscrivant à un newsletter, vous recevez une lettre d'info sur le périnée. À la lettre d'info. Et puis, il y a des séjours qui existent. Bon, j'accompagne un individuel à distance sur le plan énergétique pour celles qui ont envie d'aller plus loin de libération, comme ça a pu se faire un peu là, brièvement. Et puis, il y a des séjours qui existent. L'envol de la chouette, des séjours entre femmes sur une semaine où on se retrouve à chaque fois, c'est dans un lieu en nature où on a... Voilà, comme je suis sauvage, mais chacune à sa manière, on a quand même un gîte avec le confort, tout ça. Et puis, il y a peut-être des moments où on ira pleinement en nature et dormir dehors ou pas. Je suis quelqu'un qui fait vraiment en fonction du ressenti dans l'instant. Les exemples que j'ai cités, c'est parce que c'est ce que je recevais avec ce groupe-là. Donc, Carole, tu as dit, mais c'est exactement ça, les madeleines. Et non, bah, c'est ce qui me vient quand je me branche à ce qui est là. Donc, dans les stages, c'est pareil, je suis pareil. Donc, il y a ces semaines-là, sur une semaine, où il y a vraiment plein de transmissions, d'outils, de manières d'être pour libérer. Et l'envol de la chouette, pourquoi la chouette? Parce que la chouette, c'est vraiment cet animal qui, moi en tout cas, comment elle résonne chez moi, ça peut être différent pour chacune. Pareil, enlevons les cloisons, tel animal, c'est tel symbolique. Écoutez la symbolique pour vous. Donc, moi, la chouette, la symbolique pour moi, c'est vraiment cet oiseau nocturne mais qui arrive à percer de loin, même dans ce qui est sombre. Et comme on est dans des sociétés, on est souvent beaucoup leurré par plein de choses. Donc, c'est une manière de recontacter sa part sauvage, sa liberté, et d'avoir une vision haute d'ensemble, et puis bien de savoir où vous allez. Donc, c'est des semaines qui sont... Chacune vient avec ce qu'elle est. Ça peut être vouloir enfanter d'un projet, avoir besoin de soutien pour ça, juste se reconnecter à soi, juste prendre soin et du temps pour soi. Donc voilà, ça, il y a les infos sur mon site dans la rubrique. Parce que mon site, c'est Kemer Préder, prendre soin en breton, de soi, de la communauté de la Terre. Et dans l'onglet La Terre, c'est l'école de sagesse, le souffle des baleines avec toutes les formations. Et l'envol de la chouette, c'est la direction de l'Ouest, être adulte et responsable. Voilà. Et oui, j'accompagne, je lis à côté, j'accompagne, ouais, les traumatismes aussi, quand il y a des viols libérés aussi de ça. Voilà. J'ai vu que ça a défilé vite à un moment donné. Je n'ai pas tout lu, mais s'il y a des questions qui brûlent que je n'aurais pas vues, bah, c'est encore le moment. Et puis sinon, je pense qu'on va clôturer là pour ce temps-là.
C'est ça.
Ouais, le tambour au Chine qui partage. Mais oui, c'est ça. C'est savoir pourquoi on fait les choses, exactement.
C'est ça. Mais ça vaut pour le tambour et ça vaut en général, en fait.
Pour tout, exactement. Mmh. Pour tout. Est-ce que j'attrape une améthyste parce qu'on m'a dit que le violet est associé au premier chakra et que pour ouvrir mon troisième œil, chakra coronal, il fallait que je porte une améthyste? Est-ce que vous mettez l'améthyste parce qu'en fait, vous adorez cette couleur et qu'aujourd'hui, vous êtes habillée en, dans les tons violets et que ça va bien avec. Voilà. Et ça, ça peut être une... Pareil, hein, l'ensauvagement, c'est ça partout. Est-ce que vous prenez tout ce que je vous ai dit, écoutez si ça dit oui ou non, si ça résonne non dans votre espace sauvage, mais mettez à la poubelle tout ce que je vous ai dit, quoi. Si ça dit oui, ça dit oui. Mais c'est pas tout prendre ce qu'on dit sous prétexte que moi j'aurais fait un chemin, que je suis invitée dans ce sommet, donc que nanani nanana. Si ce que je vous raconte à l'intérieur de vous, dans votre espace sauvage, ça dit non, bah foutez la poubelle. En fait, ça veut pas dire ce que j'ai dit était faux, pas intéressant ou pas quoi. Ça veut juste dire c'est pas approprié pour vous maintenant d'entendre ça. Et ça ne veut pas dire plus tard, quand vous serez avancé, ça sera mieux approprié. Non, c'est juste, ce n'est pas approprié. Basta, poubelle, hop, au suivant. Et voilà, c'est simple. C'est ça être sauvage. Ce n'est pas chercher midi à 14h avec le mental. C'est vous écouter et faire ce qui est bon pour vous.
Merci pour tous ces beaux rappels.
Merci à toutes, ouais, pour votre présence. Merci à toi, Eddie, d'avoir... offert ce contenant, et c'est toi quand même qui permet à toute cette énergie d'être là et ouais, de donner une couleur qui unifie tout ce sommet.
Merci. On va tellement plus vite et plus loin quand on fait les choses ensemble. C'est incroyable. Je vous retrouve à 18h pour celles qui sont dispo à 18h. Je vous retrouve tout vite, tout bientôt sur les prochains. Ou plus tard en replay ou pas, ou quand vous voulez, ou, ou peu importe, quand c'est juste pour vous. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là cet après-midi avec nous, et au plaisir d'échanger. N'hésitez pas, vraiment, je le redis, je le répète, on est hyper accessible en fait, toutes. On démystifie au passage ces histoires de d'accompagnants, de thérapeutes sur leur piédestal, là, non. Hein, si vous avez des choses à nous dire, allez-y. Allez-y, pas de problème. On prendra le temps de vous répondre dès que possible. Donc moi, j'avoue, pas forcément là cette semaine, mais en tout cas, on est là pour ça aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Claire, merci encore. Merci infiniment d'embarquer à chaque fois.
Merci à toutes, vraiment. Merci de votre confiance. Merci à vous. D'être là et d'ouvrir ces espaces d'ensauvagement pour mieux ensauvager le monde.
Exactement. Tout est dit. À bientôt tout le monde.
Très belle semaine à tout le monde.
À bientôt.